Messieurs, dames, c'était la dernière séquence de Rachid Apassa.
Merci à tous, merci. Merci.
Plus belle la vie nous a permis, avec ma femme, de parler avec les enfants de tous les sujets de société. Le harcèlement, l'homosexualité, l'homophobie, la laïcité. Moi, quand je suis devenu journaliste, je voulais changer le monde. Ben, ici, parfois, j'ai un peu l'impression de le faire. C'est bien dommage qu'on retire un tel outil à la démocratie. Parce qu'il n'y a pas une autre série qui fait ça.
Ans, 4665 épisodes, c'est la série quotidienne la plus longue de l'histoire de la télévision française. Diffusée du lundi au vendredi sur France 3, depuis le mois d'août 2004, Plus belle la vie s'arrête définitivement. Le dernier épisode de 26 minutes sera diffusé vendredi prochain. Le feuilleton n'attire plus suffisamment de téléspectateurs, 2,5 millions seulement, c'est deux fois moins qu'en 2011. Une époque sans 4G et sans la concurrence, surtout des plateformes comme Netflix et Amazon. Une époque où le poste posé dans le salon était incontournable.
L'appel d'offres de France 3 était « faut faire une série à Marseille sur les valeurs de France 3 ». Or, à l'époque, les valeurs de France 3 étaient solidarité, œcuménisme, voilà. Et on a fait une série pour les gens qui regardent vraiment la télévision.
La série, tournée en studio et en extérieur à Marseille, a participé au renouveau touristique de la ville, qui a attiré 4 millions de visiteurs en 2021. Mais elle a surtout changé en profondeur l'écosystème audiovisuel de la France, avec 600 salariés à l'année embauchés pour tourner Plus belle la vie, des studios, des techniciens installés sur place. La région Sud est devenue un pôle majeur pour les producteurs de séries et de cinéma. 500 tournages à Marseille l'an dernier, c'est trois fois plus qu'il y a 10 ans, avec des retombées colossales.
Pour 1 euro d'argent public investi, c'est entre 7 et 19 euros de retombées dans l'économie locale à très court terme. Donc c'est des retombées directes, c'est de la consommation, c'est des nuits d'hôtel, c'est des taxis, c'est des restaurants, c'est de la consommation chez des prestataires de services, c'est beaucoup beaucoup de retombées.
C'est cette dynamique que les responsables de collectivités et de sociétés de production essaient de conserver. Pour les rencontrer, il faut emprunter des ruelles en carton au milieu des décors des studios de la Belle de Mai. Plus belle la suite, un reportage de Maxime Fayol avec une prise de son de Nicolas Mathias.
Merci à tous, merci.
Interception. Merci. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
En fait, ça tourne. 4664, 8 sur 2, deuxième.
D'accord. Axe.
Alors moi, j'aime bien les prénoms durs, tu vois, puissants, du style Ernesto, Nelson, Pablo.
Comme Escobar.
Ah, Escobar, quoi. Mais non, s'il te plaît, Pablo Neruda, le poète, c'est quand même...
Bah moi, tu vois, j'aime bien les vieux prénoms, Auguste, Fernand...
Ah non, mais moi, c'est bon, moi, j'ai le meilleur prénom pour un garçon, hein. Timothée.
Ça, c'est très joli.
C'est coupé, merci.
Oh là là.
Et c'était la dernière séquence du grand Thibaut Vanet.
Ouais, j'ai fait ma première séquence juste là.
Tu avais quel âge ?
J'avais 20 ans. C'est-à-dire que c'était il y a 37 ans. Et c'est ici que j'ai appris mon métier. Et c'est ici, entre autres, que j'ai découvert qui j'étais. C'est la maison. Ce qui fait de vous. La famille. Et je sais maintenant que on va forcément se recroiser sur d'autres trucs. Et ça fera un petit peu comme les cousins qu'on voit une fois par an. Mais ça reviendra à ce moment-là. Donc merci.
Allez.
Bonjour, je suis Anne Bissis et je joue le rôle de Luna dans Plus belle la vie.
On a vu, c'est une journée un peu particulière, enfin des journées un petit peu particulières, c'est la fin du tournage, il y a beaucoup d'émotions.
Ouais, ah bah oui, forcément, là on est sur la dernière ligne droite et on dit au revoir tous les jours à des gens qu'on aime.
Mais c'est des gens que vous allez peut-être retrouver aussi.
Oui,
bien sûr. Mais je suis tellement dans les au revoir en ce moment qu'il y a tout, il y a tous ces souvenirs qui vous remontent à la surface. Bien sûr, je les retrouverai autrement, autre part. Mais il n'empêche que là, c'est la fin. Donc vous imaginez bien que c'est un peu compliqué.
Ouais. Comment vous êtes arrivé, vous, sur la série, d'ailleurs ?
On m'a contacté avant les premiers jours de tournage en disant « Écoute, on a besoin d'une banque de données, en gros, de casting pour des rôles éventuellement sur une série qui se crée à Marseille. » Moi, j'ai fait « Bon, ok, j'étais en Festival d'Avignon, après je partais un mois en Écosse jouer au théâtre, donc j'étais pas du tout dans l'image. » Donc je me suis déplacée une première fois, après on m'a rappelé, on me disait « Bah écoute, tu as plu, on pense à toi pour un rôle, mais tu n'es pas du tout le personnage, est-ce que tu veux bien revenir pour faire des essais ?» Je fais « Bon, bah ok, je reviens. » Et puis genre 3-4 jours, je rappelle, je dis « Mais j'ai pas eu de nouvelles, donc c'est mort, hein, c'est juste pour savoir. » « Non, non, bah tu commences lundi. » »« Ah bon ? Alors d'accord. » Et j'avais 6 jours de tournage. J'ai une chance incroyable et j'avoue qu'on m'a proposé des choses à jouer qu'on ne m'a pas proposé à côté. Et l'intérêt d'une quotidienne, c'est que vous prenez vraiment le temps de traverser des choses en fait. Quand je parle souvent de la paraplégie parce que pour moi, c'était une des arches les plus fortes que j'ai eu la chance de jouer ces dernières années. Ça m'a duré 2 ans. Il n'y a aucun autre programme où on me laisse le temps d'expérimenter ça, de traverser tous les méandres, tout le chemin que quelqu'un qui est en situation de handicap traverse. Et ben, il n'y a qu'une quotidienne qui vous laisse ce chemin-là, en fait. Qu'est-ce que c'est que être paraplégique par rapport quand on se déplace en ville, le regard des autres, retravailler, redécouvrir sa féminité, la sexualité. Voilà, tout ça, c'est hyper important et ça manque de visibilité. Et donc, cette série, là, je prends que mon exemple, mais on pourrait vraiment l'adapter à chaque comédien. On a tous traversé des choses fortes qui ont une vraie répercussion au niveau social. Et on voyait très bien parce que le public nous en parlait beaucoup. Donc, c'est pas juste, je viens, je fais ma séquence et je m'en vais. Et ça, c'est une vraie chance.
2004, France 3.
À Marseille, sur les plateaux de la Belle de Mai, la télévision fait son cinéma.
Première séquence du feuilleton de la rentrée sur France 3, feuilleton baptisé Plus belle la vie, un projet qui se veut ambitieux avec notamment la volonté de recréer un feuilleton populaire comme on n'en fait plus depuis les années 60.
À raison de 5 épisodes par semaine, pour les acteurs et les techniciens, c'est un marathon qui commence entre angoisse et excitation.
Pour nous, c'est un travail qui est peut-être un tout petit peu plus proche du théâtre que les tournages classiques, je dirais.
J'aimerais trop voir le panier pour voir justement le lieu de tournage de Plus belle la vie.
Mais à Marseille, le quartier du Mistral est introuvable.
Beaucoup de gens, quand ils arrivent, ils cherchent le quartier du Mistral, le bar du Mistral, et malheureusement, on leur explique que ça n'existe pas. D'ailleurs, je fais un appel aux bonnes volontés. S'il y avait quelqu'un qui a la bonne idée d'installer un bar du Mistral sur le vieux port, je pense qu'il ferait fortune.
Ma belle, ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais. Je vais un peu revoir mon texte quand même, parce que c'est quand même au final. Je suis prête, mais j'espère pas pour me vautrer. Hein ?
En 18 ans, la série a connu 3290 personnages, du patron de bar à l'architecte, en passant par des médecins et des agents de police. Cela représente des milliers de vêtements et d'accessoires stockés derrière les loges des studios.
Bonjour, moi c'est Karine et je travaille au costume pour Plus belle la vie depuis une bonne dizaine d'années.
Je vais juste montrer un peu les stocks.
Oui, oui.
Là,
on est sur Elisa qui a terminé, donc on va ranger toute sa garde-robe. On a déjà fini de trier ses bijoux pour les rendre parce qu'il y a des prêts. Voilà, il y a vraiment du stock.
30 mètres de ligne de vêtements devant nous, là.
Des rayons et des rayons, des étages de costumes qui vont être vendus et tous les sous seront reversés à des associations. Il va y avoir pour Emmaüs, il va y avoir pour des étudiants aussi. Enfin voilà, tout est prévu pour que ce soit utilisé.
Les comédiens repartent peut-être avec certains habits fétiches ou certains...
Oui, évidemment, c'est normal, ils récupèrent 3 pièces, voilà, ou fétiches, ou reconnaissables, ou qu'ils ont envie de garder pour se souvenir de leur personnage. Et après, ils peuvent racheter aussi. Et... Voilà. C'est ça. Voilà.
C'est pas la voix de Thomas, ça c'est la voix de Laurent.
Thomas, il est plus dans les aigus comme ça.
C'est bon ?
Allez.
Bonjour, je suis Laurent Kérusoré, alias Thomas Marcy, dans Plus belle la vie.
Alors, en attendant, pourquoi tu cherches pas du travail dans un établissement plus coté? Tu vois,
ben, je suis bien ici, moi.
Et les clients un peu lourdingues, ça te gêne plus?
Ben, malheureusement, les blagues racistes, les machos, les anti-pédés, c'est vieux comme le monde, ça.
Et dans une grande brasserie, un café à la mode, tu pourrais avoir un meilleur salaire, hein.
Franchement, je suis bien ici.
Ah, mais ça suffit maintenant, hein.
Ben quoi, qu'est-ce que j'ai fait?
Ça peut plus durer, ça. Toute la journée, tu me souris, tu me regardes, j'ose plus sortir de la cuisine.
C'est encore parce que je suis homo? Mais c'est pas normal que ça vous pose autant de problèmes, ça.
Donc là, vous rentrez sur le plateau, qui est assez impressionnant, puisque là, vous rentrez directement sur la place du Mistral. Sur votre droite, vous avez l'emblématique bar du Mistral, tenu par Roland et Thomas et Mélanie et bien d'autres pendant des années. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que ça fait 18 ans que tous les jours, je viens ici. Là, on est dans mon bureau. Même le fait qu'on puisse démanteler ce décor, c'est pas l'arrêt de la série qui me déchire, c'est qu'on puisse démanteler ce décor. Ça me déchire, c'est-à-dire que je veux pas le savoir, je ne veux même pas qu'on m'en parle. Alors donc là, vous avez juste au-dessus de la tête la fameuse Vierge, qui est très connue, que je vais certainement chourer dans deux jours, puisque c'est notre dernier jour de tournage. Je pense que je vais prendre un escabeau et l'arracher, et partir en courant. Au Mistral, tout est faux, sauf les bouches d'égout, qui sont de véritables bouches d'égout, et les comédiens. Le reste, je peux vous faire écouter.
C'est du toc.
C'est du bois. Voilà, il y a une armature en acier derrière, mais tout ça, c'est du bois. Tout ça, c'est faux. C'est vraiment inspiré du quartier du Panier. Le quartier du Panier, ce sont que des petites ruelles. Alors en plus, moi, je suis partisan. En fait, c'est comme le costume, le décor fait partie intégrante du personnage. Venez avec moi. C'est qu'en fait, par exemple, quand on tourne dans la cuisine, vous imaginez bien que dans la cuisine, là, les caméras ne passent pas. Surtout quand, à l'époque, on avait trois caméras, un stead et deux caméras. Donc vous imaginez bien que quand on est trois personnages ici, les caméras passent pas. Donc en fait, tout ça, tous ces murs là, se lèvent. Celui-là, ça, vous enlevez l'étagère, vous arrivez derrière.
Ouais.
Derrière aussi, il y a un trou, derrière le tableau. En fait, tout est triché. Dans tous les décors, vous avez des trous derrière le frigo, derrière le machin. C'est pour laisser passer les caméras, parce que certains décors sont très petits. Alors, même moi, ça me fait bizarre. Bah oui, parce que j'ai plein de souvenirs ici. Vous voyez, je suis même ému d'en parler, parce que... Ouais, on a tourné des milliers de séquences avec Laetitia Milo et Michel, et on avait créé un espèce de trio. Vous vous rendez compte, en 18 ans, le nombre de séquences? On est à 4600 épisodes, c'est à peu près, ouais, c'est ça. Donc j'ai dû en tourner 3000 ici. Donc là, c'est plus qu'une famille. Moi, j'ai été témoin du mariage de Laetitia Milo, de Michel Cordes. Il y en a qui sont parrains des enfants. Enfin, et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est de se perdre. Parce qu'on se connaît, on connaît la vie va très très vite et on a tous peur de se perdre. Et je pense que le trac qu'on a tous là en ce moment, les émotions, les larmes, c'est ce truc, se dire mais comment on va faire, comment je vais faire pour vivre sans eux. Et je le dis réellement et sincèrement, comment je vais faire pour vivre sans eux. Je peux absolument pas vous dire comment je vais faire, mais c'est ce manque, moi, qui me fait peur. Alors on va certainement retrouver du boulot ailleurs, on va continuer notre carrière, mais ça ne sera jamais ce qu'on a vécu ici. Je crois que j'ai donné la réplique à plus de 1500 personnes. Je pense que même Monsieur Delon, qui est quand même un grand acteur français, je suis pas sûr que Monsieur Delon ait donné la réplique à 1500 personnes. Alors s'il écoute ça, il dit oui, mais c'est de la merde ce que vous faites. Non, c'est loin d'être de la merde. Et je défie les acteurs à venir tourner ici à la vitesse où on tourne. Bon, bah maintenant, il va falloir que j'aille chercher du boulot. C'est pas grave. Mais j'espère qu'on va justement donner la chance à Laurent Kérusoré d'oublier Thomas Marcy.
C'est vrai que votre personnage aussi était un personnage emblématique, puisque à la création de la série, c'était pas forcément dans les mœurs de voir un personnage
je suis le premier.
Homosexuel, de vivre son quotidien.
À heure de grande écoute, je suis le premier. Et ce qui est très très fort, c'est l'autre jour, c'est une dame justement qui me l'a rappelé dans la rue, qui m'a dit ce qui est bluffant, c'est que dès que Thomas arrive, je crois que c'est dans la première ou la deuxième semaine de diffusion, janvier 2005, où Thomas arrive et dit à son père, moi je veux me marier et faire des enfants. Ce qui, à l'époque, je crois que dans l'histoire, il y a Frémont qui se fout de lui, même Roland qui se fout de lui, mais Thomas n'en déroge pas. Non, je vais me marier, j'aurai des enfants. Depuis 18 ans, on est tous les jours chez les gens. Là, depuis l'arrêt de la série, tous nos réseaux sociaux, de tous les acteurs, particulièrement les récurrents, C'est des copies doubles, des gens qui nous expliquent leur désarroi de se dire je ne vais pas pouvoir vous perdre. Et ça, c'est quelque chose de fort, parce que ces gens-là ne nous connaissent pas. On parlait du quotidien des gens, c'est aussi important. C'est que, oui, on a développé plein de sujets. On parlait des gens.
Merci beaucoup, Laurent.
De rien.
Merci à vous. Profitez. J'ai pas allumé la machine à café, m'excusez.
Attendez.
Non, je sers plus en terrasse.
Voilà.
J'ai pas la personne.
Parler de la vie des gens, c'est dans le cahier des charges de la série. Soutenu par des fonds pour promouvoir la diversité, Plus belle la vie a changé la façon de créer des séries télé en France en créant un nouveau modèle. 3 ateliers, une 30aine d'auteurs, c'est avec Michel Podrosnik qui produit la série qu'on retrouve Maxime Fayolle.
Bonjour, France Inter. Je suis coproducteur au départ avec Hubert Besson et François Charland de la série Plus belle la vie. Moi, c'est 18 ans de tournage et un an et demi d'écriture et de préparation, donc 20 ans de ma vie.
Comment on explique la création de cette série au départ, parce que ça n'existait pas, ce genre de série qui raconte un peu le quotidien des Français en 2004, et surtout, sur ce format-là, un épisode par jour?
C'est-à-dire que ça existait à l'étranger. Coronation Street, que moi j'avais vu quand j'allais en Angleterre, ça dure toujours. Hein. Ils ont commencé en 62 ou 63, je crois. C'est les petits-enfants maintenant qui tournent les rôles des grands-parents. Il y avait un Posto di Sole à Naples. Enfin, c'était... Il n'y a que la France qui n'avait pas. L'appel d'offres de France 3 était « Faut faire une série à Marseille sur les valeurs de France 3 ». Or, à l'époque, les valeurs de France 3 étaient solidarité, œcuménisme, voilà. C'est comme ça qu'on a, nous, on s'est dit, il faut prendre un quartier avec la vie du quartier, comme si c'était un village, et parler des gens qui habitent dedans, et parler de leurs problèmes, qui sont les problèmes de tous les Français. Et on a fait une série pour les gens qui regardent vraiment la télévision, donc une série populaire, une télévision au service des gens qui n'ont que ce moyen le plus important pour apprendre, pour se distraire, pour comprendre la vie, pour réfléchir. C'est-à-dire, c'est pour les producteurs et les auteurs, entourés de spécialistes, c'est de savoir humer l'air du temps et de dire, on a fait l'épidémie avant qu'elle arrive, parce qu'on savait que ça allait arriver. Vu l'état de la santé en France, on a fait les grèves dans l'hôpital, mais bien longtemps avant qu'il y ait la grève des... Donc on pressentait, parce qu'on travaillait avec des sociologues, on travaillait avec des spécialistes de tout, parce qu'il faut qu'on écrive très en avance. Nous, on est 3 à 4 mois en avance avant que ça passe à l'antenne, quelquefois 6 mois. Donc il faut inventer les histoires, et on a eu des petits miracles, c'est arrivé, les incendies qu'on a fait à la dernière minute, là, parce que comme on nous a dit que c'était la fin, on a inventé d'autres histoires, et on a mis les incendies de Marseille au moment où il y a eu les grands incendies qui ont éclaté partout. On n'est pas devin, hein. C'est comme ça, c'est un hasard, voilà. Et à travers des personnages qui vivent ces événements, ça a été mon travail à moi. Il y a des gens qui nous ont dit « mais vous m'avez aidé à traverser cette épreuve ». Une mère d'un petit autiste qui m'a dit « je ne savais plus quoi faire quand j'ai vu que ça arrivait dans la série et j'ai compris comment je pouvais faire ». Un père homophobe qui s'est fâché avec son fils quand il a fait son coming out et qui a dit « grâce à Plus belle, je me suis réconcilié avec mon fils ». Donc c'était assez bouleversant.
Bonjour, est-ce que vous connaissez cet homme ? Bonjour, est-ce que vous connaissez cet homme ? Est-ce que vous connaissez cet homme ? Et toi ?
C'est lié aux urgences de la quarantaine, l'enquête, parce que j'ai reçu une alerte sur mon portable.
C'est grave, parce que mon fils est là-bas.
Et moi, j'ai ma fille, mes deux petites filles.
Ils disent que c'est un virus, on sait ce que c'est exactement ?
Non, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est pour ça qu'on enquête.
Alors, on la connaît, la chanson. Si on nous dit rien, c'est qu'on veut nous cacher la vérité. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, ça va pas recommencer.
Attendez, on se calme, là. C'est pas parce qu'ils sont confinés qu'ils sont en danger.
Pardon, mais mariner dans un bocal avec des gens infectés, si, c'est un danger.
Non, c'est juste une mesure pour protéger la population, c'est tout.
Bonjour, je m'appelle Jérôme Bertin et je joue le rôle de Patrick Nebou, qui est à la fois commandant de police et papa d'une famille recomposée totalement déjantée.
Quelle relation vous avez avec votre personnage, puisqu'on a énormément d'intrigues policières?
Oui, alors c'est vrai que le personnage de Nebou, du commandant de police, il y a eu une relation très forte, puisque on devient un peu une image assez positive de la police en France. Mais c'est presque plus... le personnage de père de famille, moi, qui m'a beaucoup troublé, perturbé et tout ça. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des intrigues très fortes comme celle où le personnage de Patrick Neboux se fait violer. C'était très audacieux de la part des auteurs et du diffuseur aussi de montrer ça à cette heure-là devant un public familial. Donc j'ai un lien. Il va me falloir un peu de temps pour me détacher de Patrick Neboux.
Ouais, c'est vrai qu'on confond un peu des fois le personnage et l'acteur auprès du public. En tout cas, j'imagine qu'il y a une réelle confusion.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est marrant parce que ça m'est arrivé aussi à Marseille de me faire arrêter par des gars qui sortaient des baumettes et qui arrivaient et qui me fait « Ouais, toi, t'es le seul flic que je respecte. » Et là, il lève le bas du pantalon et je vois le bracelet électronique. Donc, il me disait qu'il nous regardait beaucoup en prison et tout ça. Donc, voilà. Mais à la fois, ils nous prennent comme un flic et puis comme un personnage sympathique, quoi.
Alors vous êtes arrivé sur la série alors qu'elle avait déjà un peu débuté. Tout de même, elle avait déjà quelques années. Quelle image vous en aviez de la série avant de l'intégrer ?
Oh, j'étais certainement dans les mêmes clichés que beaucoup de gens à l'époque, parce que je la connaissais pas. Je la regardais pas, donc j'avais un peu des a priori, mais qui étaient liés à ce que j'avais entendu dire. Et j'ai découvert une série humaniste. Pour moi, c'est un laboratoire de la démocratie, ce qui se passe à Plus belle la vie, parce qu'en fait, vous avez ici tous les sujets de société qui sont abordés, sans tabou, et qui permettent à des gens qui ont totalement décroché de l'actualité, qui ne lisent plus le journal, qui ne regardent pas le 20h, qui n'écoutent pas la radio, de s'intéresser aux vrais sujets de société et d'en débattre. Il y a un écho social de ce programme qui est considérable. Et ça, plein de fois, j'ai eu des retours directs du public dans la rue, mais qui arrivaient des gens qui me disaient « Mais comment vous faites, vous, avec les ados, etc. ?» Et alors je leur disais « Mais vous savez que c'est pour de faux. »« Oui, mais quand même, parce que vous êtes dans les relations, etc. Et » Et voilà, donc ça, je ne mesurais pas ça. Et je suis extrêmement fier aujourd'hui. C'est le projet, mon expérience professionnelle qui correspond le plus à mes valeurs. Et moi qui ai été journaliste avant, pendant 15 ans, j'ai l'impression de refaire le journal de 20h, mais en version médecine douce, en prenant le temps d'expliquer les choses. Là où le journal de 20h va faire un sujet en 1 minute 30, nous on va le traiter en 1 mois et demi, 2 mois. Donc on va pouvoir aller beaucoup plus dans la finesse du sujet. Et ça... ça n'a pas de prix. Moi, j'ai encore reçu, il y a 2 jours de ça, un message d'un homme qui a été violé. Et il n'en avait jamais parlé à personne. Et lui, il me remerciait parce qu'il me disait, d'abord, Plus belle la vie nous a permis, avec ma femme, de parler avec les enfants de tous les sujets de société. Le harcèlement, l'homosexualité, l'homophobie, la laïcité. Puisque à Plus belle la vie, nous, on l'a traité, la laïcité, après la mort de Samuel Paty. Et tout ça. Et à la fin, il me disait, en plus, moi, j'ai été violé. Et grâce à vous, en fait, j'ai pu en parler avec ma femme. Et ça lui a permis de, bah, d'avancer dans sa vie. Et quand vous avez ça, sincèrement, moi, quand je suis devenu journaliste, je voulais changer le monde. Ben, ici, parfois, j'ai un peu l'impression de le faire. Mais ça, je ne le savais pas avant. Et maintenant, je me dis, ben, c'est bien dommage qu'on retire un tel outil à la démocratie. Parce qu'il n'y a pas une autre série qui fait ça.
Figuration, mettez-vous en place, s'il vous plaît. Allez. Au départ, merci. 4664.16 sur 3. Troisième, pick-up, 2 caméras.
Caméra au départ. Au départ. Caméra, silence.
Je m'appelle Marc Roux. Je suis scénariste sur la série Plus belle la vie. J'ai fait partie de la toute première équipe qui a créé la série et puis je suis parti, j'ai quitté la série pendant 8 ans et je suis revenu ensuite et dernièrement j'occupais les fonctions de co-responsable des dialogues sur la série.
Comment vous travaillez un petit peu au quotidien ?
En fait, l'écriture est organisée en atelier. On travaille vraiment ensemble, en équipe. Donc, c'est ce qu'on appelle une writing room. C'est ce qui est pratiqué par la plupart des séries américaines, mais qui en France n'existait pas vraiment encore à l'époque. Existait déjà sur quelques séries. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de 2004. Il y avait très peu d'ateliers d'écriture. Moi, j'en avais déjà fait auparavant. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas en réalité en France. En France, à l'époque, quand on parlait de 26 minutes, on pensait principalement à Hélène et les garçons. J'avoue que quand on m'a proposé ça, je me suis dit, bon, on avance vraiment sur quelque chose de complètement inconnu.
D'ailleurs, au départ, ça fonctionne pas très très bien auprès du public. Pour quelle raison ?
Je pense que c'était des choix éditoriaux qui avaient été faits, qui étaient peut-être trop ambitieux d'une certaine manière, c'est-à-dire d'être sur des histoires qui étaient très chronique, où il ne se passait pas grand-chose. Une des premières scènes du premier épisode, c'est la famille Marcy qui traverse la place. Et la famille Marcy qui traverse la place, ça dure longtemps, quoi. Donc il ne se passe pas grand-chose. Et évidemment, bah, ça ne passionne pas les foules. Bon, mais on a assez vite analysé ça et changé le contenu.
Qu'est-ce qui fait une bonne arche narrative, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne auprès du public, mais si on peut essayer de donner une recette?
Bah oui, s'il y avait une recette, ce serait bien. Je pense que ce qui fonctionne, c'est qu'on est toujours dans un contexte de personnages ordinaires auxquels il arrive des choses extraordinaires et qui vont manifester une capacité de résilience. Et donc, on est à la fois dans du divertissement, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui amuse, qui fasse plaisir, et en même temps qui construise un parcours, qui soit constructif sur le parcours des personnages. C'est ce qui crée finalement ce rapport intime, très particulier, qu'il y a entre le public d'une série quotidienne et les personnages.
Comment est née l'idée de faire rentrer la société dans une quotidienne ?
Alors, je crois vraiment que ça fait partie du projet initial. Cette volonté, elle était présente dès le début et elle a toujours perduré. Ça fait vraiment partie ça de l'ADN de Plus belle la vie, c'est que c'est une série qui a toujours voulu créer le débat. En fait, on a traité énormément de problématiques sociétales. Le célibat des prêtres, par exemple, c'est une thématique qu'on a traitée, mais il y a très longtemps, il y a 15 ans, on a fait une histoire là-dessus, sur le célibat des prêtres. La transidentité, c'est aussi une intrigue dont on a beaucoup parlé. Enfin, des sujets comme ça, il y en a énormément. Hein. Ça faisait vraiment partie de notre ADN. Et puis, il y a une liberté dingue, en fait, dans Plus belle la vie. Il y a, je pense, peu d'équivalent en France sur une série aussi regardé, à un horaire aussi exposé. On a vraiment eu une liberté quasiment totale pendant 15 ans.
C'est une 4664-16 sur 1, première.
Quand on dit qu'on travaille sur Plus belle la vie, il peut y avoir effectivement un léger dédain de la part de la profession ou bien mais dès qu'on parle de ça avec je dirais des gens de la vie quotidienne dans nos familles qui sont pas reliés à l'univers médiatique ou artistique, là par contre c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de travailler là-dessus. Moi, on m'a déjà demandé des autographes, moi scénariste quoi. Mais vous savez aussi ce qui est marrant avec Plus belle la vie, c'est que ça a aussi intéressé beaucoup d'intellectuels. Y a un livre qui s'appelle Plus belle la philosophie, par exemple, qui se servait de Plus belle la vie et des intrigues de Plus belle la vie pour explorer des concepts philosophiques. Oui, oui, c'est une fierté de travailler et d'avoir travaillé pour Plus belle la vie.
Messieurs, dames, c'était la dernière séquence de Rachid Afassa.
Bonjour.
Bonjour. Je suis Muriel Mille et donc je suis maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Pourquoi vous avez écrit une thèse autour de Plus belle la vie, on va dire ?
Ce qui m'a intéressée au moment où j'ai commencé la thèse, c'était de travailler sur la production de fiction à destination d'un large public et la production de fiction en série. Il y a eu plein de tentatives de feuilletons quotidiens. Ça s'était pas installé, pas aussi longtemps. Et là, effectivement, l'ampleur de l'investissement, c'est novateur à l'époque. La cible, c'est tout le monde, parce que pour diffuser à cet horaire-là, c'est pour viser le plus grand public possible. Après, d'après les enquêtes pratiques culturelles des Français, plus on est diplômé, plus on habite à Paris, plus on est profession intellectuelle supérieure, moins ou cadre, moins on a de chance de regarder Plus belle la vie. Mais à 6 millions de téléspectateurs, en fait, un peu tout le monde regarde de toutes les catégories sociales, même si la plupart des gens qui regardent sont employés, ouvriers, ouvrières, plutôt des femmes ou retraités, par exemple. Mais on trouve aussi des cadres, des étudiants, des journalistes, des sociologues qui regardent Plus belle la vie.
Est-ce que justement c'est une série qui a pour but de démocratiser ces problématiques qui sont parfois invisibilisées dans le champ public ?
Je pense qu'il y aura un débat au sein des scénaristes, mais quand même le point de départ c'était par exemple de promouvoir la diversité à l'écran. C'était au début, même Plus belle la vie avait un financement par la Facile depuis l'Accès, qui était des fonds de promotion de la diversité. Donc ça, c'est resté, avec l'idée aussi d'avoir quand même une sorte de dimension pédagogique, mais en voulant pas être justement moralisateur ni donner de leçons. La plupart du temps, on va voir des personnages sans papier qui, à la fin, vont avoir leur papier pour illustrer à quel point c'est difficile d'être une personne sans papier en France. Même s'ils veulent mettre en scène un débat, on voit quand même que ça, oui, c'est un message plutôt progressiste. La plupart des scénaristes que j'ai rencontrés, ils sont quand même plutôt à gauche et ils veulent promouvoir un message citoyen. Ils vont plutôt valoriser le vivre ensemble en disant que Plus belle la vie, ça met en scène des habitants qui ont des problèmes mais qui arrivent à les surmonter ensemble et à en parler pour aller plus loin, etc.
Plus belle la vie est une série très marquée justement évidemment par la ville de Marseille, qui en retire d'ailleurs des bénéfices directs ou indirects. Mais si on regarde le feuilleton quelques épisodes, très difficile de comprendre presque qu'on est dans cette ville.
Alors je pense que ça dépend des périodes, parce qu'il y a des moments où on voit vraiment Marseille dans le feuilleton, dans le générique, on le voit, et dans les épisodes tournés en extérieur, il y a plein de moments où c'est dans Marseille et où c'était un peu plus, par exemple, c'est censé, donc le quartier du Mistral, il est censé être inspiré du quartier du Panier à Marseille, et le bar, il est inspiré directement du bar des 13 cantons, qui est un bar de Marseillais dans le quartier du Panier. Et au début, ou à certains moments, il filmait plus directement sur la montée des Acoules, qui est la montée vers le quartier du Panier, donc qui faisait plus le lien entre le quartier fictionnel et le quartier réel. Peut-être qu'au fur et à mesure, ils ont un peu moins montré Marseille, ou pas le même Marseille. Voilà. Du coup, je pense que ça a changé la place de Marseille dans le feuilleton au fur et à mesure du temps.
Ouais, c'est pas une des raisons de l'effondrement des audiences ou du désintérêt.
Bah, alors déjà, l'effondrement, il est très progressif en fait.
C'est une érosion plutôt.
Oui, c'est plutôt une lente érosion des audiences, parce que ça reste plus que plein d'autres émissions en fait. Je pense que c'est 2 millions. On peut penser que c'est lié à un vieillissement du public. Et un problème de renouvellement du public du feuilleton et à la concurrence des autres feuilletons quotidiens qui se sont installés et aussi des nouvelles formes de consommation des séries qui sont plus forcément à la télévision mais plutôt sur des plateformes de streaming.
On l'a tout pour le Longuiomistral, il faut qu'on le joue un peu manique. Il y a Anne qui va lancer Longuiomistral.
Au total, Plus belle la vie faisait travailler 5 à 600 intermittents, avec des structures de production déléguées, des décors colossaux, un budget de près de 30 millions d'euros par an, soit plus de 500 millions depuis le début de la série. En 2023, France Télévisions a déjà prévu de conserver le même volume d'investissement et la ville espère bien conserver son avance dans le secteur de la production pour devenir, grâce à des subventions promises l'an dernier par Emmanuel Macron, capitale méditerranéenne du cinéma. Retour avec Maxime Fayolle près du bar marseillais où se réunissent les fans de la série.
Interception sur France Inter.
Ouais, bonjour, enchanté. Gilles Samuelian, je suis le responsable du restaurant Twist Avenue à Marseille, qui a été longtemps le restaurant officiel de Plus belle la vie. Il y avait les diffusions de la série en avant-première certains soirs et le restaurant était bondé avec les acteurs qui étaient sur place. Au travers de ma clientèle aujourd'hui, je vois qu'il y a une vraie tristesse, un vrai regret, un manque. Une grande partie de Marseille est vraiment attachée à cette série et c'est une vraie tristesse. Vraiment, les gens sont tristes de cet arrêt. Et c'était un petit peu leur quotidien, leur petite bulle d'air à avoir.
Ouais, c'est vrai que vous diffusiez en avant-première les...
Et avec les acteurs sur place qui venaient, qui partageaient, qui étaient là, quoi. Ils pouvaient parler directement avec leurs fans et c'était quelque chose de... Ça rendait humain.
Vous avez des gens qui viennent dans votre restaurant pour vous dire ah, c'est ici que...
Ah oui, même on appelle pour réserver en disant vous êtes toujours le restaurant officiel le plus bel de la vie, on a vu qu'il y avait les acteurs, les gens sont là, il y avait les jeux de société, j'ai encore des jeux de société que je fais cadeau à certains clients très fans.
Donc voilà, il y a une vraie ferveur. Au-delà de la recherche commerciale, c'était un partage autour d'une seule et même envie qui était de partager le plaisir de plus belle la vie. À force d'avoir dit, j'ai l'impression que c'est des copains, des membres de la famille, et on le ressent aujourd'hui. Les gens se sont identifiés, se sont appropriés, les acteurs, le jeu d'acteurs, la vie se sont projetés ici. En termes de ferveur et de liesse populaire, plus belle la vie à Marseille, et le phare, et puis l'identité marseillaise, c'est quelque chose qu'on aime bien revendiquer face à la capitale. Et c'est vrai qu'on a une certaine appartenance à notre ville et à nos racines. Et je pense que c'est naturellement qu'on s'est attaché à plus belle la vie.
Ouais, c'est étonnant parce que finalement, la série représente un Marseille qui n'est pas tout à fait le Marseille réel, j'allais dire.
Ben, je dirais qu'à part l'accent et les cigales dans la voix, ça représente quand même notre ville, avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés, mais c'est cette chaleur populaire qu'on retrouve, cette proximité des gens qui sont très facilement ouverts aux autres, et plus belle la vie, c'est ça, c'est tout le monde est ouvert à Marseille aux autres. Moi, je suis d'origine arménienne. Au massacre des Arméniens, on a été reçus à Marseille parce que c'est un port, parce que la France sait nous accueillir. Et j'aime la France, j'aime Marseille, et je suis fier de ça. Quoi de mieux qu'une série aussi populaire et aussi reconnue que Plus belle la vie pour représenter Marseille sous son meilleur jour.
Le 18 novembre.
On a un truc prévu le 18 novembre ?
Mais oui ! Oui, on se retrouve tous pour une soirée très spéciale sur France 3.
Après 18 ans de vie commune, 18 ans d'amour et d'aventure, l'histoire de Plus belle la vie se termine.
Pour les techniciens, il y a d'autres opportunités de travail. Avec des séries quotidiennes, elles aussi, comme Demain nous appartient ou Ici tout commence, diffusées sur TF1 et tournées en région Occitanie. Marseille va donc perdre de son intérêt pour ses intermittents et pour les jeunes techniciens tout juste diplômés. Thierry Lavaille, délégué Force ouvrière média et chef opérateur son sur Plus belle la vie, y voit même le risque que des métiers disparaissent.
Il y aura des projets, mais il y aura des personnes sur le carreau. On a même des métiers qui vont disparaître. On avait mis ici, il y avait des métiers qui étaient apparus nécessaires de par le procédé de fabrication. Script son qui donnait à chaque perchman l'indication de fin de réplique d'un comédien. Ce métier-là n'existait nulle part ailleurs. C'était devenu pour nous une nécessité parce qu'on s'était rendu compte qu'on gagnait du temps et en précision de qualité. Aujourd'hui, ce métier-là n'existera plus. France Télévisions s'enorgueillit de vouloir faire de la proximité. Et là, un projet comme Plus belle la vie qui disparaît de Marseille, on perd en proximité. On avait des moyens de production régionaux qui ont disparu. Et on était présent grâce à ces moyens de production régionaux dans un cycle qui permettait aussi aux écoles d'être intégrées, aux étudiants qui voulaient travailler dans ce secteur d'activité, de trouver de l'activité grâce à la présence de ces moyens de production. Aujourd'hui, ces moyens de production, ben, ils disparaissent. Ils sont centralisés à Paris et ils n'existent plus dans les territoires.
Mais il y a un projet. C'est celui du cinéma et de l'audiovisuel. D'une part, parce que nous avons plus de 400 tournages accueillis en 2019, trois fois plus qu'il y a 10 ans, et qu'il existe à Marseille un terreau favorable. Et donc, c'est le moment d'investir dans les industries culturelles et créatives, dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Et à Marseille, il y a la capacité de le faire, il y a l'envie et il y a des opportunités pour les jeunes.
Bien, Jean-Marc Coppola, je suis adjoint à la culture à la ville de Marseille.
Comment vous avez réagi à l'annonce de la fin du feuilleton Plus belle la vie ?
Une petite incompréhension quand même, parce que c'est un peu brutal, et en tout cas cette brutalité fait qu'on a du mal à se retourner, et surtout en tout cas ceux les principaux concernés, puisque notre réaction, celle du maire, ça a été de suite et l'emploi, quoi. 500-600 intermittents, techniciens, comédiens qui se sont pour une grande part installés à Marseille avec leur famille, ben, c'est effectivement leur avenir qui est en jeu, qui est préoccupant, et voilà, on a de suite demandé à France Télévisions, à Newen, quelles étaient les perspectives et quelles garanties ils nous apportaient pour la suite.
Et ils vous ont répondu quoi ?
Ben, pour l'instant, c'est oral, en tout cas du côté de France Télévisions, en disant on compte investir la même somme, c'est-à-dire environ 30 millions d'euros sur Marseille pour des séries pour l'année 2023, mais quid des années suivantes ? Donc voilà, on est vraiment très préoccupés, on a rencontré du monde, des organisations syndicales, on a rencontré du personnel, on a rencontré le groupe Newen qui essaye de réfléchir à une alternative, mais la dernière rencontre que nous avons eue laisse peu d'espoir. Alors, à Marseille, nous ne sommes pas en reste de création, de production, puisqu'il y a toute une série de longs métrages, il y a des fictions, il y a des séries, il y a des publicités avec la Covid. Vous savez, il y a des publicités qui étaient délocalisées en Espagne ou en Afrique du Sud, qui sont relocalisées ici à Marseille. Donc, des projets, il y en a une myriade.
Peut-être pour d'autres séries ou pour des films ?
On a quelques idées quand même. On réfléchit aussi à des reconversions. Il n'y a pas, par exemple, dans cette ville, de studio de répétition et d'enregistrement de musique. Bon, voilà.
Ouais, ça fait un manque à gagner quand même, j'imagine, pour la ville.
Alors, c'est un manque à gagner, oui, effectivement, même si les conditions de location étaient très avantageuses pour la production.
On l'a pas dit, mais Plus belle la vie, c'est tourné en studio, bien évidemment, et dans un quartier de Marseille qui est un petit peu particulier, qui est un quartier assez défavorisé de la ville, la Belle de Mai. Vous pouvez un petit peu nous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas.
Et je voudrais pas stigmatiser, mais ça fait malheureusement partie des quartiers quand même les plus paupérisés de notre pays. On veut faire redémarrer justement le développement de Marseille en passant par ces quartiers. Et donc on a effectivement là tout un contexte où on a la friche de la Belle de Mai depuis 30 ans. On a ce pôle média qui est poumon économique, culturel, artistique. Et il y a de quoi développer, je pense par exemple dans le secteur de l'animation. Et donc il y a beaucoup d'entreprises, de start-up qui sont intéressées à s'installer donc au pôle média. Bon, ça peut être une manière aussi de développer ou de redévelopper ce quartier. Faut rebondir. De toute façon, on est dans une situation où maintenant, il ne faut pas simplement s'apitoyer et puis pleurer sur le sort de Plus belle la vie. Mais je répète la préoccupation, et nous attendons quand même une réponse claire, des engagements clairs de France Télévisions. Le maire a écrit à la présidente de France Télévisions récemment, et donc on attend une réponse là-dessus. Il y a un an, donc au mois de septembre 2021, le président de la République annonce qu'il veut développer, il veut aider en tout cas à développer l'audiovisuel et le cinéma à Marseille. Et au mois de mai de cette année, c'est l'annonce de la fin de la série Plus belle la vie. France Télévisions investit depuis 2004 ici, et donc on comprend pas qu'un groupe public viennent un petit peu à contrario de d'une orientation qui est prise, qui engage l'État, mais qui engage aussi l'ensemble des collectivités locales.
Alors, il faut bien voir qu'à Marseille, en 10 ans, le nombre de tournages a tout de même triplé selon le Bureau du cinéma. L'activité génère aujourd'hui près de 70 millions de retombées économiques. Pour comprendre un peu l'impact de la fin de la série, on va voir Olivier Marchetti. Il a fondé Provence Studio à Martigues en 2013.
Donc, je suis Olivier Marchetti, je suis le président fondateur de Provence Studio.
Expliquez-nous un petit peu quel est le poids de la série Plus belle la vie dans l'écosystème audiovisuel à Marseille et dans sa proche région, on va dire.
Il était énorme. Il était énorme parce que ça fait plus de 18 ans que Plus belle la vie produit à Marseille. Et grâce à ça, ils ont pu former un nombre conséquent donc de techniciens, ce qui permet aujourd'hui pour nous par exemple d'avoir un nombre de techniciens compétents formés sur place, donc c'est vraiment un gros avantage. Et donc c'était quand même l'emploi de 400 familles. Plus belle la vie, c'était quand même une quotidienne, c'était vraiment une usine, c'était vraiment énorme. Ils ont été très importants dans la création du studio. Les productions parisiennes n'avaient pas peur de descendre à Marseille parce qu'ils savaient qu'il y avait énormément de techniciens et d'intermittents grâce à Plus belle la vie. Donc c'était quand même quelque chose de sécurisant pour les productions, et pour nous c'était quelque chose de favorable.
Et ça permet vraiment de créer de l'emploi, qu'il soit direct ou indirect d'ailleurs ?
C'est colossal. Les productions, quand elles viennent sur un territoire, elles dépensent beaucoup d'argent. Là par exemple, on a eu nous une série américaine, c'est à peu près 70 millions d'euros de retombées sur quelques mois sur un territoire. Là entre autres c'était Marseille et Martigues. Donc c'est des retombées directes, c'est de la consommation, c'est des nuits d'hôtel, c'est des taxis, c'est des restaurants. C'est pour 1 euro d'argent public investi, c'est entre 7 et 19 euros de retombées dans l'économie locale à très court terme. Donc c'est quand même assez conséquent.
Du coup, on imagine que c'est un petit peu problématique le fait que la série s'arrête pour Marseille, son économie et l'approche banlieue.
C'est problématique, sauf qu'il y a quand même derrière donc France Télévisions qui s'est engagée donc à essayer de compenser tout ça. Et puis il y a quand même un engouement aujourd'hui des plateformes pour le sud de la France. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué de tourner en région parisienne. Et donc, la province aujourd'hui est en train de remonter un petit peu en part de marché par rapport à la capitale, même si la capitale reste de loin devant toutes les autres régions de France. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tourner en province a certains avantages pour les productions nationales ou internationales.
Les techniciens, on l'avait dit, sont plusieurs centaines des intermittents à avoir travaillé sur cette série. Mais est-ce qu'ils vont rester à Marseille? Est-ce qu'il va y avoir assez de tournage pour les faire tous travailler?
Alors, on espère qu'ils resteront à Marseille et on fait tout pour qu'ils restent à Marseille. Aujourd'hui, il y a vraiment un boom des tournages, on va dire, dans la métropole marseillaise. Et il y a un vrai goulet d'étranglement au niveau des industries techniques. Aujourd'hui, on a une vraie pénurie de techniciens en France. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas forcément très inquiet pour les techniciens de Plus belle la vie, qui sont en plus très compétents, qui pourront rebondir assez rapidement sur telle ou telle production.
Il y a cette question aussi des décors qui se pose pour la fin de Plus belle la vie, puisque ça prenait quand même une très grosse part des studios de La Belle de Mai, avec des décors qui sont très conséquents, très grands. Je ne sais pas si vous, on vous a sollicité peut-être pour héberger ces décors d'une manière ou d'une autre, tenter de les conserver ou de les réutiliser peut-être.
Mais non, parce qu'il y a quand même une image artistique qui est très forte. Plus belle la vie, c'est Plus belle la vie. La place du Mistral, ça reste la place du Mistral et on la verrait pas dans une autre série que dans Plus belle la vie. Et puis il y a toujours les droits d'auteur des techniciens qui ont travaillé dessus, donc c'est toujours compliqué. Plus belle la vie est occupée quasiment 100% des studios de La Belle de Mai. On va essayer tous ensemble avec les gens de La Belle de Mai, avec New N, avec France Télévisions, d'essayer de trouver une sortie honorable à tout ça.
Plus belle la suite, un reportage de Maxime Fayolle, prise de son Nicolas Mathias, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier et Thomas Lehetet, mixage Stéphane Foulon. Cette émission est déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter.